vous écoutez, C-K-U-T.
Salut, c'est Calamine.
Ici Sandy Duperval.
Ici Canada.
Ici Nathalie Claude.
Ici La Chance.
Ici Ali Polanski, maestro, s'il vous plaît.
Ici Mary J. Modeste d'Opulence Montréal.
Ici Coco Béliveau.
Ici Louise Turcotte du collectif des archives lesbiennes du Québec.
Ici Queen and Queer avec DJ Sam et Marilyn Thomas.
Ici Nancy Pettinicchio, la réalisatrice du film Falena.
Ici Sylvie Paquette.
Ici Lou Voyon.
Ici Anne-Marie Soucy
et Azalée Baillargeon du groupe Those Trees.
Ici Lucie Bazo.
Ici Roselle.
Ici Mélodie Noël Rousseau, aussi connue sous le nom de Rock Bière.
C'est Charlie Goudreau à la direction du festival Imagination.
Vous écoutez Lesbos Son avec Nathalie Dipalma sur les ondes de CKUT 93 FM.
Bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de l'année qui est, à mon avis, représentative des belles rencontres que nous avons faites tout au long de l'année 2022. J'ai eu envie de faire un petit medley en introduction avec nos généreux invités qui ont accepté de venir nous voir. Toutes les émissions de l'année sont disponibles sur Mixcloud, Lesbos Son. Merci à nos invités et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Ce soir, on reçoit Anne-Marie Olivier, comédienne et autrice. Elle sera avec nous pour nous parler de la pièce de théâtre Maurice qui a été présentée à Québec déjà et qui a connu un grand succès. La pièce sera présentée au théâtre d'aujourd'hui à Montréal du 17 janvier au 4 février prochain. Et nous aurons le plaisir de parler avec Joanne Cadorette qui a longtemps travaillé à l'emblématique librairie L'Androgyne qui était située sur la rue Saint-Laurent, qui a aussi fait beaucoup de critiques littéraires. Elle travaille en ce moment avec les archives lesbiennes où elle redécouvre des classiques littéraires. On revient avec Anne-Marie Olivier tout de suite après la chanson de Melissa Etheridge, Christmas in America.
Well, I picked out a tree and I tied it to the car. There's a wreath up on our door, a tiny reindeer in the yard. I drove under the downtown lights, red and green and blue. The silver neon snowflakes only made me think of you. It's Christmas all around me, you're in someone else's land. So I'm sending out my only wish. Hey, Santa, tell them me.
Let's deck the halls while the teenagers with candy canes ramble through the malls. The girls are down at Ruby's trying to find some Christmas cheer. There's not much to do but drink too much when every day is unclear. So here I am on Christmas Eve, this silent holy night, and I reach up to the stars for you. I play.
Christmas in America, I need you in my arms, far away from home.
Notre invitée, Anne-Marie Olivier, est connue à la fois comme interprète et autrice. Diplômée depuis 1997 en interprétation du Conservatoire d'art dramatique de Québec, elle a joué dans plusieurs productions. En 2004, sa pièce solo « Gros et détail » a connu beaucoup de succès au Québec, en Europe et en Afrique. Ce premier cru lui a valu le prix d'interprétation Paul Hébert au prix d'excellence des arts et de la culture de Québec et le masque du public Loto-Québec en 2005. C'est cette même année qu'elle met sur pied sa compagnie de théâtre « Bienvenue aux dames », pour laquelle elle assure toujours la direction artistique. En 2012, elle est nommée à la co-direction générale et à la direction artistique du Théâtre du Trident. Elle met fin à son mandat en 2022 pour se consacrer entièrement à sa pratique artistique. En 2018, sa création « Venir au monde » se retrouve en nomination dans la catégorie théâtre, aux côtés, entre autres, des textes publiés des pièces « J'aime Hydro » de Christine Beaulieu et « Enfant insignifiant » de Michel Tremblay. Et elle remporte le prix littéraire du gouverneur général pour cette catégorie. Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Bonsoir, Anne-Marie Olivier.
Bonsoir.
Ce soir, on va surtout parler de la pièce Maurice, qui est une création de votre compagnie de théâtre Bienvenue aux dames, qui sera présentée au théâtre d'aujourd'hui du 17 janvier au 4 février prochain. D'abord, je suis curieuse, qu'est-ce qui vous a inspiré le nom de votre compagnie de théâtre Bienvenue aux dames?
Ah, bien, c'est parce que ma mère, à un moment donné, on marchait sur la rue, puis j'avais demandé qu'est-ce que ça signifiait. Dans ce temps-là, les tavernes étaient nouvellement ouvertes aux femmes. Hein? Ça décrit mon âge un peu, mais en fait, c'est un regard sur le monde qui est porté par des femmes. Souvent, longtemps, le théâtre, ça a été une histoire d'hommes. Hein? Beaucoup d'hommes à des postes de pouvoir, comme auteurs, metteurs en scène.
Oui.
Puis, pour moi, j'ai un regard féministe, humaniste sur les choses. C'est-à-dire, les hommes ne sont pas exclus, mais le regard des femmes est bienvenu aussi.
Et je sais que vous aimez créer des pièces de théâtre bâties sur des histoires vraies. Dans cette pièce, vous vous êtes glissé dans la peau de Maurice Dancause. J'aimerais que vous nous parliez de ce qui vous a inspiré la pièce Maurice.
En fait, je suis tombée dans un party de famille où j'étais obligée d'aller avec mon ancien conjoint. Puis je suis tombée sur ce monsieur-là qui était aphasique, mais qui s'exprimait avec tant de clarté et d'émotion, ça m'a jeté par terre. Puis j'y repensais le lendemain, le surlendemain. Ça me hantait. Puis souvent, quand un sujet nous colle à la peau, c'est parce qu'on a besoin. C'est signe souvent que c'est un bon sujet. Donc, j'ai fait des entrevues avec Maurice et il m'a raconté sa vie. Puis à partir des entrevues qu'on a fait, c'est ce qui est, disons, la colonne vertébrale du spectacle que les gens vont voir au théâtre d'aujourd'hui.
Puis cette pièce est à mi-chemin entre le théâtre documentaire et l'improvisation. Vous êtes seule sur scène, mais vous invitez au hasard un spectateur à vous rejoindre dans votre appartement qui est aménagé sur scène. Comment cette idée vous est-elle venue?
Bien, c'est pour recréer la rencontre que j'ai eue avec lui.
Okay.
Parce que dans les affaires, quand je demande à Maurice de quoi il s'ennuie le plus sur son accident cérébrovasculaire, ça a eu lieu quand il avait 33 ans. Quand je lui demande de quoi il s'ennuie le plus, c'est qu'il me dit qu'il a soif des autres, donc de rencontrer les autres.
Mmh.
Donc, on prend quelqu'un au hasard dans le public qui va passer une heure sur scène avec moi, puis je vais raconter la vie de Maurice, puis il y a ce petit côté-là, improvisation. Donc, la personne peut me poser des questions, puis moi aussi, des fois, c'est moi qui prends le plancher, des fois, je lui laisse me poser des questions, mais ça fait que, tu sais, on dit souvent, le théâtre, c'est un art vivant, mais là, il y a quelque chose de vraiment en direct. Cette personne-là qui est prise au hasard dans le public est au degré zéro, donc au même niveau que les autres spectateurs. Donc, c'est comme si tous les petits fils du circuit électrique étaient branchés. La plupart du temps, parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber, mais je dirais que 92% du temps, ça fait que la représentation est magique. Quand les gens sont empathiques, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe sur scène. Puis j'aime beaucoup ça. C'est une production qui est très simple. Ça réinvente pas le théâtre. C'est très, très simple dans les codes. Par contre, ça vient qu'à célébrer le fait qu'on est en vie. Puis aussi, il y a plein de choses qu'on connaît pas sur l'aphasie. On est très ignorants collectivement là-dessus. Je trouve, en tout cas, moi, je l'étais. Fait que c'est comme une petite fête, mais aussi on apprend des choses, on rigole, on réfléchit. C'est un mélange de... qui ressemble à ça, là.
Mais vous avez quand même une base de texte, j'imagine, ou vous improvisez vraiment tout le long de la pièce?
Non, non, il y a vraiment une base. Quand je vous parlais de colonne vertébrale, c'est vraiment à partir de verbatim, donc des entrevues que j'ai réalisées avec lui. Fait que c'est la colonne vertébrale du texte, elle est là. Puis il y a des petits moments, c'est un peu comme un concert de jazz, en fait. Quand on revient à la mélodie, on revient au programme principal. Il y a des petits moments où on part d'un point A, puis on ne sait pas trop comment on va se rendre au point B. Bien, c'est les moments d'improvisation avec le spectateur ou la spectatrice.
Et c'est vous qui jouez le personnage de Maurice. Quel a été votre plus grand défi avec cette pièce?
Le plus grand défi, c'est vraiment le côté imprévisible avec la personne avec qui je vais jouer. Je suis tout le temps, excusez-moi l'expression, sur le gros nerf. Puis sinon, ben c'est toujours un défi aussi de me rapprocher le plus possible du vrai Maurice. Donc, j'écoute des entrevues qu'on a filmées ensemble pour essayer de me rapprocher le plus de son attention aux autres. Hein? Aussi de la comment il va prononcer les mots, les voyelles, ses hésitations, ses gestes. Donc, de me coller à ça, puis en même temps, de m'ouvrir complètement à chaque représentation qui est différente. C'est comme un peu les deux.
Et vous avez eu l'occasion de jouer cette pièce à Québec. Est-ce que Maurice a vu la pièce et quelle a été sa réaction?
Bien, il était là à la générale, première et deuxième représentation. Puis après, il vient saluer avec nous, puis souvent, il va dire « émotion ». Souvent, il me dit que les aphasiques n'ont pas de filtre. Tout le touche constamment, comme s'il avait plus son épiderme. Les choses le touchent beaucoup. Donc, c'est ce qui va dire « émotion ». Puis aussi, c'est quelqu'un qui fume. Donc, il va dire après ça qu'il a besoin d'aller fumer une cigarette. Mais il y a un regard très plein d'acuité sur la personne avec qui je vais jouer. Puis, il est très heureux, enfin, que son histoire soit révélée parce que aphasie, malheureusement, égale souvent solitude. Puis, la pandémie, encore plus, a exacerbé ça. Donc, il est très heureux de rencontrer les gens, très heureux que son histoire soit racontée. Puis, il a très hâte que ça soit joué à Montréal parce qu'il vit à Montréal. Donc, il a hâte aux après-spectacles pour rencontrer les spectatrices et les spectateurs qui vont faire entendre son histoire.
Puis j'ai lu que Maurice a eu son AVC alors qu'il avait 33 ans et aujourd'hui il a 66 ans, donc il a vécu aussi longtemps. Il a vraiment 33 ans sans son AVC et 33 ans après.
Ben il sent comme au midi de sa vie.
C'est ça.
C'est assez intéressant de l'entendre là-dessus. Puis, tu sais, c'est un gars, avant, il était économiste, donc les chiffres avaient beaucoup d'importance dans sa vie. Puis là, il y a beaucoup de difficultés à les dire. Et c'est pas trop si c'est un hasard, il dit qu'il réfléchit à ça. Mais pour lui, c'est ça, il y a différentes choses qui sont un combat, mais malgré toutes les épreuves qu'il vit, il apprécie maintenant d'avoir accès à une certaine intelligence émotionnelle. C'est assez beau de l'entendre là-dessus.
Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la production. Sur votre page Facebook, Théâtre Bienvenue aux Dames, vous nous présentez toutes les personnes qui ont collaboré au spectacle. D'ailleurs, il y a Lucie Bazot que nous avons reçue pour parler de son exposition photo il n'y a pas très longtemps, qui assure l'éclairage du spectacle Maurice. Est-ce que vous voulez nous parler d'autres personnes qui sont sur la production?
Ben, il y a Michel Motard, qui est une chanteuse lyrique, qui m'accompagne en fin de représentation. C'est vraiment chouette qu'elle soit là. Il y a, Lucie Bazot, qu'on adore, bien sûr, que vous avez nommé. Olivier Artaud à la mise en scène. Erika Schmitt au décor. Éric Lebrec à la direction technique. C'est plein de... Tu sais, souvent, on va comme décliner ces noms-là. Pourquoi c'est important? Parce qu'on fait du théâtre, parce qu'on a la foi, puis à cause de tout l'amour qu'on met dans les productions. Donc, de pas nommer les gens, je trouvais ça un peu ingrat, alors que ça fait toute la différence du monde. Vous savez, il y a juste 4% de la population qui va au théâtre. C'est comme un combat de faire ça, c'est pas nécessairement reconnu. T'sais, les gens pensent que parce qu'on passe pas à TV, c'est parce qu'on n'est pas bon. Mais il y a beaucoup de choses qui sont méconnues à propos du théâtre. Donc, les artisans du théâtre, en plus ceux qui sont pas sur scène, je pense qu'il faut leur accorder un peu de lumière, surtout leur dire merci de faire ça. Puis, je pense que c'est important de faire du théâtre, pas dans le sens noble du terme, c'est-à-dire pour tout le monde, mais aussi des shows dans lesquelles il y a de la nourriture pour le cœur et l'esprit. Ouais. C'est des shows qui sont des fêtes en soi, donc des rassemblements. Après toute cette période où on a été isolés, d'être ensemble. Puis moi, souvent, je vais dire, moi, je ne vais pas à Metz, je vais au théâtre, j'ai absolument rien contre le monde qui va à Metz. Je trouve ça super d'avoir la foi. Mais pour moi, c'est là qu'on peut essayer de faire du sens avec ce qui n'en a pas dans la vie. Donc, tous les gens qui y travaillent, je pense qu'ils méritent la lumière.
Oui, puis vos présentations sont super belles et personnalisées. Ça vaut la peine d'aller faire un tour sur la page Facebook Théâtre Bienvenue aux Dames pour rencontrer cette équipe-là. Et en terminant avec tout ce que vous avez expérimenté, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier?
Bien, pour moi, comme je vous disais, le théâtre, c'est un feu autour duquel on se réchauffe. Oui. Des fois, on se sent prisonnier, puis c'est vraiment plate. Il n'y a rien de plus plate que du théâtre plate. C'est Robert Gravel qui disait ça. Mais je pense aussi que c'est vraiment, vraiment le fun quand ça marche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme... Moi, j'ai pas... Je suis quelqu'un d'assez pessimiste dans la vie, même si j'adore rire. J'ai pas beaucoup de lieux où j'ai confiance dans le genre humain, mais au théâtre, oui. Dans mon jardin communautaire, oui. Puis, des fois, ça marche. Fait que quand ça marche fort, ça nous fait du bien. C'est comme un soleil qui se lève, une révélation, une communion. C'est pas grano, là, il se passe de quoi. Fait que je suis en amour encore avec ma discipline, même si des fois, elle est un petit peu mal représentée ou on la connaît mal, mais... Je pense qu'il peut y avoir plein de choses simples, mais qui font du bien. Comme je vous disais, de la nourriture pour le cœur, le corps puis la tête.
On vous invite à aller voir la pièce Maurice au théâtre d'aujourd'hui du 17 janvier au 4 février prochain et à suivre les productions de la compagnie de théâtre Bienvenue aux Dames sur Facebook. Merci beaucoup Anne-Marie Olivier d'avoir pris le temps de nous rendre visite.
Et merci à vous, puis on l'a pas dit, mais on rit beaucoup dans le spectacle. Ça fait partie de toute l'expérience. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. C'est super précieux.
Génial. J'ai très hâte de voir cette pièce. Merci.
Yay, merci beaucoup.
Merci. On poursuit en musique avec Noël partout de Safia Nolin.
Ta carte hier, missive du temps des fêtes, de papier rouge et vert, de l'or pour les plus fiers. Je sais pas si je vais venir, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Je passerai Noël sur un avion, sur un bateau, au milieu de l'eau. Noël sur une montagne, en Espagne, en Bretagne. Noël sur la lune, ou peut-être sur Saturne. Noël, Noël partout, sauf chanter l'hiver ou accrocher des lumières, danser autour du sapin puis faire semblant d'être bien. Je veux pas être méchant, mais je serai absente. Je passerai sur un avion, sur un bateau, au milieu de l'eau. Noël sur une montagne, en Espagne, en Bretagne. Noël sur la lune, ou peut-être sur Saturne. Noël, Noël partout, sauf chez vous. Thank you.
Nous avons le plaisir d'être avec Joanne Cadorette, agente aux communications pour les Archives lesbiennes du Québec. Salut, Joanne.
Salut, Nat.
Ce soir, tu viens nous parler de littérature.
Oui, exactement. En fait, ce que je viens faire, c'est un peu promouvoir les Archives lesbiennes du Québec et vous parler un petit peu de la collection, mais aussi de la ressource que c'est au point de vue de servir des archives pour aller trouver des bonnes choses à lire qui ont une thématique lesbienne. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu comme décidé de vous en parler. Donc, je ne sais pas s'il y en a plusieurs parmi vous qui connaissent les Archives lesbiennes du Québec, mais ils ont vraiment comme des archives avec plein de documents et des artefacts. Mais parmi ces choses-là, il y a une collection de livres et de romans. Et aux archives, on peut seulement consulter des choses sur place. On n'est pas une bibliothèque, là, on ne peut pas les sortir. Mais par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée de la collection de livres. Puis on peut toute la trouver en ligne en passant. Il y a toute une, on peut télécharger un fichier Excel qui nous montre toutes les titres qui sont présentement aux archives. Et moi, quand j'ai vu cette liste-là, je me suis comme promenée dedans. Puis j'ai eu tellement de souvenirs parce que, premièrement, de mon travail à la librairie Mandragine, mais il y avait plein d'auteurs et de livres de romans que j'avais carrément oublié. Et c'est sûr que j'ai pas le temps d'aller m'asseoir aux archives pour lire un roman, là, on s'entend, mais par contre, j'ai fait un travail de recherche pour aller voir est-ce qu'il y a encore beaucoup de ces livres-là qui sont disponibles, parce qu'on s'entend, la réalité dans l'édition de livres queer, lesbien, gay, est très différente qu'elle l'était, là, mettons, 20 ans, là, quand je travaillais à l'androgyne, parce qu'il y a eu vraiment un changement là, dans la façon que ces livres-là sont publiés. Je vous dirais qu'il y en a moins et qui sont plus difficile à trouver. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éditeurs qui ont fait faillite aussi, des éditeurs de livres lesbiens et gays. Donc, c'est peut-être des titres qui sont un peu plus difficiles à trouver. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que parmi les classiques, il y en a quand même beaucoup qui sont disponibles soit en bibliothèque, comme à la Bibliothèque nationale du Québec, ou carrément dans les grandes librairies ou même à la librairie Le Gagnon. Donc, il y a quand même une façon d'aller voir ces titres-là. Donc, si on parle de la fameuse liste des archives, on peut trouver plein de choses. Donc là, ce que je voulais vous faire, c'est des suggestions de lecture pour le temps des fêtes et possiblement de cadeaux. Donc, si vous êtes comme vraiment comme à la dernière minute comme moi, et vous n'avez pas tout trouvé vos cadeaux de Noël, et vous avez besoin d'idées, mais j'ai trouvé au moins 3 livres qui seraient peut-être intéressants, qui sont disponibles, que vous pouvez acheter soit en ligne ou dans un magasin. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à mes choix. Donc, le premier dont on va parler, c'est, et puis vous allez me dire qu'on n'arrête pas d'en parler, ce sujet-là, mais c'est le roman Carole de Patricia Highsmith. C'est sûr que c'est un roman que vous connaissez peut-être. J'en ai parlé justement quand on a fait la commandite Imagination avec les Archives lesbiennes du Québec. On a commandité justement le documentaire sur Patricia Highsmith. Et le roman Carole, c'est le seul roman qu'elle a publié, puis en fait, elle l'a publié sous un nom de plume, là, Claire Morgan. Mais c'est le premier roman lesbien qui a été publié où les lesbiennes n'avaient pas une fin tragique. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, puis ça a été publié, je pense, en 1952, si je ne me trompe pas. Donc, ça a vraiment fait fureur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lesbiennes à ce moment-là qui ne s'étaient jamais vues reflétées dans une histoire d'amour sans qu'il y en ait une qui meure ou que, tu sais, qui se fait assassiner. Ou... C'était toujours des fins tragiques. Il y avait des romans, on appelle ça des romans de gare, hein, des petits romans cheap là, que tu achetais comme à la gare, là, j'imagine, ou dans les petites librairies. Qui avait des thématiques lesbiennes, mais c'était toujours, la thématique, c'était toujours comme, il va avoir une mauvaise fin parce que on pouvait pas comme promouvoir l'idée que de choisir une vie lesbienne, c'était un bon choix. Donc, les romans, ils pouvaient pas avoir des bonnes fins finalement, mais Carole, c'est le premier qui a eu comme vraiment une bonne fin. Moi, j'avoue que j'ai pas lu le roman puis j'ai pas vu le film, hein, parce que c'est aussi un film avec Kate Blanchett et Rooney Mara. Vous l'avez probablement vu. Non, moi, je sais pas pourquoi, je l'ai pas vu. Je vais le regarder dans les semaines qui viennent. Mais donc, je sais pas comment ça finit, mais apparemment, ça finit pas mal. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, ce roman-là, Carole, il y a aussi sa version originale en anglais, The Price of Salt. Il est toujours disponible. Vous pouvez le trouver en français et en anglais à la librairie Bugagnon. Et aussi dans les grandes librairies comme Renaud-Bray, tout ça. Et aussi en bibliothèque, normalement, comme à la BAMQ. C'est un roman qu'on peut trouver soit en version imprimée ou numérique. Donc, il y a plusieurs façons de se le trouver. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on revient vraiment comme à la source là, de la littérature lesbienne avec ce roman-là. Ah oui, il y a aussi une autre chose aussi. Si vous êtes intéressé intéressé à explorer un peu plus la vie de Patricia Highsmith. Ça, c'est un à côté, c'est Laure Neuville des Archives qui m'en a parlé. Il existe un livre qui s'appelle « Les écrits intimes de Patricia Highsmith, journaux et carnets ». Donc, si vous avez vu le film, justement, le documentaire sur elle, c'est basé beaucoup sur ses écrits dans ses journaux ou dans ses carnets où elle planifiait tous ses romans puis elle écrivait toutes ses pensées. Donc, c'est un tome qui existe. C'est apparemment très intéressant. Il est disponible à la librairie Le Gaillon, soit en papier ou aussi en format numérique. Donc, ça aussi, si vous cherchez une idée cadeau, je pense que c'est un beau cadeau et une belle lecture aussi. Donc, le deuxième dont je voulais vous parler, c'est Les Nuits de l'Underground de Marie-Claire Blais, qu'on a perdu il y a pas trop longtemps. Je pense que c'est pas cette année ou l'année d'avant. Une auteure québécoise lesbienne. C'est vraiment un classique de la littérature lesbienne et il est toujours disponible. Hein? C'est pas un livre qui est épuisé ou qu'on peut plus trouver. On peut toujours le trouver soit à De Gagnon ou même en bibliothèque. Hein? C'est vraiment un classique qu'on peut trouver. Et la raison que je l'ai choisi, ben, c'est pour souligner Marie-Claire Blais. C'est sûr qu'il a vraiment eu un impact très important sur la littérature québécoise, mais aussi parce que c'est vraiment un classique de la littérature lesbienne. Hein?
Oui.
Et puis, on se retrouve dans la scène dans les années 70 à Montréal. Et puis, on s'entend qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le village gay. Là. Il y avait pas, c'était pas... C'est pour ça que ça s'appelle underground aussi, parce que c'est vraiment une culture et une vie qui n'était pas connue. Et c'est une histoire qui se développe. En fait, c'est plusieurs histoires qui se développent dans ce milieu-là. Donc, si ça vous intéresse, vraiment, c'est un incontournable. C'est sûr que c'est une lecture qui n'est pas facile, là, je vous dirais. Marie-Claire Blais, c'est pas, c'est peut-être un petit peu, ça pose peut-être des défis. Là. C'est pas un roman à l'eau rose, là, comme je peux vous dire. Hein. Mais quand même, ça vaut la peine, si ça vous tente de lire, de, au moins de sortir en bibliothèque et de voir ce qu'il y en est. Et comme je vous dis, il est toujours disponible en livre imprimé aussi. Donc, un classique de la littérature lesbienne qui vous ramène dans les années 70 dans les bars de Montréal.
On s'en va en musique avec Alléluia, interprétée par Ariane Moffat, et on revient avec Joanne Cadorette.
Hallelujah. going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holly dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Oh, maybe there's a God above.
On poursuit avec Joanne Cadorette qui nous fait des suggestions de lecture pour le temps des fêtes.
Le troisième que j'ai déniché, c'est un livre que j'avais complètement oublié. Et ça, ça m'étonne parce que quand je l'ai lu, ce livre-là, ça m'a vraiment bousculé. C'est le livre Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Donc ça, ce roman-là, c'est un roman semi-autographique qui a été publié en 1993 par une auteure américaine, Leslie Feinberg, qui était vraiment comme une œuvre révolutionnaire sur les complexités du genre. Leslie Feinberg, une personne transgenre, elle a vraiment été au début de ces conversations-là. Puis ce roman-là, justement, a vraiment lancé, a vraiment ouvert un discours sur l'identité et les complexités d'identité de genre. Et c'est un roman très émouvant parce que c'est son histoire un peu personnelle que Leslie Feinberg a vécue. Et il y a dans ça beaucoup d'histoires sur la politique des classes sociales, parce que c'est une personne qui a eu un enfance quand même assez difficile, qui a vécu un petit peu dans la pauvreté. Et par après, qui a vraiment su comme se retrouver dans sa vie par le militantisme, mais aussi en vraiment comme explorant son identité de genre. Et c'est, en tout cas, c'est vraiment un roman très, très, très intéressant. Mais ce qui m'a vraiment marqué là-dessus, c'est que le roman, il est plus disponible.
Oh non.
Mais par contre, Leslie Feinberg, qui est décédée en 2014, a rendu le roman disponible en version numérique entièrement gratuitement. Tu sais, je vous ai dit au départ là, que plutôt dans les années 2000, il y a eu comme beaucoup de faillites de petites maisons d'édition. Hein? Donc, l'éditeur de ce livre-là, justement, en fait, il y en avait deux. Je pense qu'au départ, c'était Firefly Books et après ça, c'est Allison Books qui l'a repris. Mais les deux ont fait faillite. Et Leslie Feinberg a mené une lutte judiciaire pour récupérer les droits de publication de son roman. Ça, c'est une personne qui était vraiment très marxiste et communiste dans ses convictions, une personne vraiment de gauche. Dans sa lutte, ce qu'elle voulait faire vraiment, c'est enlever tous les aspects de transactions financières reliées à son œuvre et rendre l'œuvre entièrement disponible gratuitement. Donc, en ce moment, on peut complètement le télécharger chapitre par chapitre en PDF en allant sur le site web lesliefeinberg.net. Et vous allez aussi, si vous allez voir sur le site, toute l'histoire qui s'est passée et la bataille de Leslie justement pour rendre son livre disponible gratuitement en ligne. L'autre chose, la plus grande surprise, c'est que quelqu'un l'a traduit. en français.
Ah, oh, génial.
Apparemment, c'est pas une traduction exceptionnelle. Ce serait une traduction qui est peut-être un petit peu pas très d'une grande finesse, mais par contre, il est traduit. Et la maison d'édition qui l'a traduit, c'est Hystérique et Associés, que ça s'appelle. Donc, l'adresse pour trouver, c'est Hystérique et Associés, tout au pluriel. Donc, Hystérique, S-Associés.org. Et vous allez trouver là-dessus, chapitre par chapitre, le roman de Leslie Feinberg. Donc, c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment émue parce que de savoir que Leslie a vraiment mené cette lutte-là pour avoir les droits. Et puis, dans les dernières années, là, Leslie souffrait beaucoup d'une maladie. Donc, c'est un travail qui a été très difficile, mais qui s'est fait. Et là, le résultat, c'est que ses vœux ont été réalisés et on peut maintenant trouver le roman gratuitement en ligne. Et voilà, donc c'est les trois suggestions que j'ai trouvées. Mais si jamais vous voulez aller bouquiner, si on peut dire, dans la collection des archives, vous allez sur le site web des Archives lesbiennes du Québec et vous allez voir dans « Collection ». Il y a plusieurs sections, il y a des revues, il y a des artefacts, mais il y a aussi une section livres et on peut télécharger, c'est un fichier Excel, et vous allez voir tous les titres qu'elles ont en archive. Donc ça, c'est une bonne façon. Tu sais, moi, je me suis rappelée de plein de noms d'auteurs, donc j'avais carrément oublié beaucoup des livres qui sont plus disponibles, qui sont peut-être pas disponibles en impression, mais c'est quand même agréable d'aller voir est-ce qu'il y en a qui sont toujours disponibles, est-ce qu'il y en a à la bibliothèque du coin, à côté. Chez nous, où est-ce qu'on peut les trouver autrement. Et je pense que c'est une bonne chose à faire parce que on a vraiment un rapport différent avec la littérature aujourd'hui qu'on avait là, 15, 20 ans même. On a vraiment, c'est vraiment plus quelque chose pour les lesbiennes et les gays. On a tellement plus de choix pour aller se divertir. On a des émissions de télévision, on a des films. Il y a beaucoup plus de choix.
Et les réseaux sociaux.
Exactement, ouais. Les réseaux sociaux, tout ça, exactement. Fait qu'on peut vraiment se connecter facilement avec la culture lesbienne. Et avant, si je recule comme quand je travaillais à la librairie d'Androgyne, vraiment, la librairie et les livres, c'était vraiment un point très important. La librairie était un point de rencontre et les livres étaient vraiment un accès à la culture lesbienne qui était rare, finalement, qui était vraiment privilégié. Donc, en tout cas, fait que c'est pour ça, c'est un peu nostalgique, là, mon histoire, là, mais c'est pas du tout ce que je veux dire que... Oh, dans le bon temps, on pouvait trouver des livres lesbiens à la librairie, c'est pas ça du tout. C'est plutôt pour vraiment donner un petit peu de visibilité sur l'importance du travail des archives, justement, et que même si on peut pas se rendre physiquement pour aller consulter des romans qui sont dans les archives, cette collection-là peut nous servir, justement, à aller dénicher des beaux trésors de culture lesbienne.
Oui, puis je pense qu'on prenait plus le temps de lire aussi. C'est ça, ça va tellement vite aujourd'hui qu'on prend moins de temps peut-être de s'asseoir puis de lire. Je sais pas toi, pour moi, c'est comme ça.
Tout à fait. Et puis, c'est que notre attention est sollicitée dans plusieurs autres canaux, si oui. Tu veux. Il y a d'autres opportunités. C'est pour moi, c'est mon petit téléphone parce qu'il y a plein de choses que je fais dans ma vie personnelle et aussi dans ma vie d'entreprise aussi qui sont reliées à mon téléphone. T'sais, c'est comme, il y a des applications que je vérifie plusieurs fois par jour. Et puis, c'est sûr qu'on se perd là-dedans aussi. T'sais. C'est sûr que tu dis, ah, je vais juste aller voir si telle personne me laissait un message sur LinkedIn, mais finalement, tu lis toutes tes espèces de nouvelles.
C'est ça, exactement. Puis on lit beaucoup plus sur Internet que de s'asseoir avec un livre.
Oui, c'est ça. Puis pour moi, je sais pas, en vieillissant aussi, c'est la lecture aussi. Franchement, c'est niaisé, mais j'ai de la misère à pas m'endormir quand je lis un livre. Parce que souvent, le temps de lecture, c'est quand on est prêt à se coucher, tu sais, parce que là, bon, finalement, tout le bruit est fermé, puis on est vraiment, on se trouve avec notre roman. Puis je le fais toujours, tu sais, j'habite à côté d'une bibliothèque, donc j'ai souvent comme un roman que je lis, mais je peux pas lire parce que deux, trois pages sans m'endormir, sans m'endormir. Fait que c'est tout un autre défi aussi, mais oui. En tout cas. Je pense que tu as raison, on prend moins le temps de le faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font quand même, parce qu'il y a quand même des librairies, il y a quand même des livres qui se vendent, il y a quand même des meilleurs vendeurs. C'est pas qu'il n'y a plus de livres, là, il y en a plein. Mais je dirais que pour les éditions lesbiennes en particulier, c'est quelque chose qu'on ne voit vraiment plus. Donc, il y a une petite recherche à aller faire là-dedans.
Absolument. Une série de livres qui m'avait marqué, que j'avais pris à l'androgyne, c'était La détective Sandra Scapotone.
Oui! La détective, elle est lesbienne, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça.
J'ai lu, moi aussi, ces romans-là, puis c'était vraiment bon.
Il y avait plusieurs livres, je pense qu'il y en avait 5 ou 6. dans la série, mais...
Oui. Écoute, j'en ai lu tellement des romans policiers là, lesbiens. Là, j'en ai lu, écoute, il y en avait beaucoup là, dans le temps. Là. Mais même pas lesbiens, là, je les lis quand même. T'sais, en fait, il y a l'auteur Val McDermid, qui est lesbienne, mais qui a écrit comme des douzaines de romans policiers, mais ils n'ont pas toutes des thématiques lesbiennes. Il y en a qui en ont, puis il y en a qui en ont pas. Ben, moi, ce que j'aime beaucoup dans les séries, c'est que tu suis les personnages de livre en livre.
Oui.
Pour ça, j'ai beaucoup accroché sur les romans policiers parce que tu apprends vraiment comme à connaître les personnages parce que tu les suis d'année en année. Tu viens vraiment attaché à ces personnages-là aussi.
Mais il y a beaucoup de choses à découvrir, je suis sûre. Puis c'est comme tu dis, avec une liste qui regroupe tous les livres que les archives lesbiennes ont en main, ça peut donner des idées de faire ah oui, ça. Puis de faire des recherches aussi sur ces livres-là, voir leur disponibilité. Mais merci d'avoir fait de chemin pour tes trois suggestions.
Ben oui. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que ce qui m'a étonnée aussi, c'est surtout dans la collection française, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs québécoises. Tu sais, c'est des livres qui sont probablement pas disponible maintenant, puis j'ai fait un petit peu de recherche, et tu sais, je pense à des gens comme des femmes comme Gloria Escomel ou Anne-Marie Alonso. C'est sûr que c'était des lesbiennes qui publiaient des livres lesbiens, des livres de poésie, et on les retrouve plus maintenant parce qu'ils sont épuisés.
Okay.
Donc, à moins de savoir, c'est que, mon Dieu, c'était quoi le titre de celui de Gloria Escomel, Le fruit de la passion, je crois. À moins de savoir que ça, c'est un roman lesbien, tu ne vas pas aller le chercher, tu ne trouveras pas ce livre-là. Anne-Marie Alonso, c'est une poète, elle a écrit plusieurs livres. Est-ce qu'ils sont toujours disponibles? Je ne sais pas. T'sais, est-ce que c'est quelqu'un qu'on continue à lire puis à publier? Je ne sais pas. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant. Puis l'autre tuyau que je veux vous dire ou que je veux faire aussi pour les archives, en fait, si on parle de livres, si vous avez chez vous des romans que vous lisez plus, ou des romans classiques là, de littérature lesbienne, pensez à un moment donné à les laisser en don aux archives, parce que ça fait partie de la culture et de la mémoire lesbienne, ces livres-là.
Oui.
Et d'avoir comme un organisme qui travaille pour conserver ça, pour moi, c'est extrêmement important, c'est de documenter qu'est-ce que c'est, de les avoir, oui, en archives, mais aussi de les documenter, c'est une très bonne référence aussi. Donc, enfin, moi, j'ai une coup de pied ici que j'ai à donner justement, parce que c'est des livres que j'ai lus des centaines de fois, là, j'ai plus à les relire. Ils traînent chez nous pour rien. Donc, on va les envoyer aux archives et puis elles vont les apprécier.
Oui. Merci beaucoup, Joanne, d'avoir pris le temps de venir nous parler de suggestions de livres. C'est toujours super intéressant de t'entendre. Puis je te souhaite des joyeuses fêtes parce que ça s'en vient rapidement.
Oui.
C'est la dernière émission de l'année ce soir.
Ben toi aussi, Nathalie, puis vraiment le chapeau pour le travail que tu fais à l'Esbeauçon. Je te souhaite un petit peu un repos.
Merci.
Et de revenir toute chargée et pleine d'énergie pour continuer l'émission. Et c'est un plaisir de parler avec toi.
Merci.
OK,
merci,
bye.
Merci, bye. On passe en musique avec Annie DeFranco qui nous chante sa version de Amazing Grace, qui sera suivie de Franklin qui nous chante à Noël.
pas s'en passer. Pas s'en passer. Sans passer. Et pour pouvoir chanter.
C'est déjà la fin de l'émission. Merci à nos invités Anne-Marie Olivier et Joanne Cadorette. Je tiens aussi à remercier Richard Trudeau qui m'a aidé tout au long de l'année avec les publications sur les réseaux sociaux. Merci à vous qui nous écoutez. Sans vous, notre travail est inutile. On se laisse avec Sarah McLachlan et on se donne rendez-vous le lundi 2 janvier 2023. Puisse Noël vous faire vivre des moments mémorables et je vous offre nos souhaits les plus chaleureux pour la nouvelle année. Joyeuse fête!
So this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. So this is Christmas. I hope you have fun, near and dear one.
And it's sounds. Underground Sounds. Patrice Caron avec vous jusqu'à 22h pour cette édition 19 décembre 2022, heure normale de l'Est. Mais on est dans l'Ouest, sur le bord de la montagne, dans la superbe ville de Montréal. Et on commence avec un artiste que je respecte énormément. J'ai acheté des billets pour un spectacle que j'avais déjà vu de lui. Ce qu'on appelle, des fois, on fait du drunk buying, mais ça, c'était comme un drunk buying de billets. Donc, Kid Koala, de son prochain album, apparaître au mois d'avril prochain. Vous êtes toujours à CKUT 90,3 FM.